Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Tumulte spécial 500e de Noir c'est Noir avec Guy.
Oui, pas vraiment d'informations ni de musique nouvelle aujourd'hui, donc dans Tumult, une émission spéciale à l'occasion effectivement de la 500e chronique Noir c'est Noir, chronique de Radio PFM, donc qui a débuté il y a de ça plus de 16 ans. Donc l'occasion de faire une émission spéciale, merci Jean de me permettre de faire ça dans ton émission, c'est bien sympa. Le genre d'émission pas vraiment original, hein, qui fait plaisir d'abord à celui qui l'a fait, mais qui peut aussi faire plaisir à celles et ceux qui vont l'écouter. Il y aura des livres à gagner, qu'on se le dise. Gagner est un bien grand mot, hein, on verra ça tout à l'heure. Mais il y a quelques livres très intéressants que vous pourrez gagner. Ça peut aussi, ce type d'émission, permettre à nos auditrices et auditeurs, et notamment à celles et ceux qui ne connaissent pas trop le roman noir, eh bien de le connaître, hein, de le découvrir, de le connaître un peu plus. Il y aura notamment des extraits d'interviews, d'auteurs, d'éditeurs, auteurs, éditeurs de romans noirs. On en a croisé un certain nombre, notamment avec Jean, qui ne le dit pas, mais s'intéresse aussi aux romans noirs. L'idée est enfin, pour cette émission, de donner quelques pistes de lecture. Alors j'ai essayé d'établir un top 5 de ces 500 chroniques, on y reviendra. Et puis donner aussi une ambiance, le roman noir, ça peut s'associer à de la musique, du jazz, du blues, du rock, pas forcément des musiques nouvelles, mais des ambiances sympas. Donc on va illustrer cette émission aussi musicalement. J'ai failli prendre une bouteille de whisky, mais moi j'aime pas. Alors j'ai bien pensé au Calva, mais autant le dire tout de suite, hein, l'émission n'a pas lieu, elle est enregistrée dans les conditions du direct, mais pas à l'heure du direct. Et on travaille le midi, donc c'est un peu tôt, hein, genre pour le Calvin. On est plus à l'heure de la bière et du sandwich, comme dirait commissaire Maigret. En tout cas, on va essayer de se réchauffer comme on peut. Pour commencer, peut-être écouter la numéro 1 de Noir c'est Noir. C'était le 24 septembre 1994. Son d'époque cassette. Ça arrive, hein, les cassettes.
On commence avec Guy Descomptes.
Voilà.
2. 1.
S'il est une association couleur, genre, musical qui colle aussi bien qu'un autocollant de PFM sur la lunette arrière de votre voiture, c'est bien l'association noir et blues. Si le blues était une couleur, il serait noir. C'est une évidence. Pourquoi pas bleu, me direz-vous ? Parce que le bleu est déjà pris pour un fromage. Trêve de plaisanterie. Qu'y a-t-il de plus noir que le blues et ceux qui le vivent ? Peut-on lire en quatrième de couverture du bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui ? La question est pertinente, car que vient faire un livre sur le blues dans la collection La Noire de chez Gallimard, collection au demeurant consacrée aux romans noirs, aux romans policiers, voire aux thrillers ? La réponse se trouve aussi sur cette même quatrième de couverture. Construit comme un thriller, Night Hawk Blues, c'est le titre du livre, Night Hawk Blues, est un portrait du blues en forme d'enquête. D'où d'ailleurs le bandeau aguicheur qui ceint le livre de Guralnick, à savoir le roman du blues. Si personnellement j'estime que Guralnick n'a pas écrit là le roman du blues, ça veut dire quoi d'abord le roman du blues ? Si j'estime qu'il n'a pas non plus construit son bouquin comme un thriller, je pense néanmoins que Night Hawk Blues a sa place dans cette belle collection et d'autre part qu'il mérite largement les 4 ou 5 heures que vous demandera sa lecture. Night Hawk Blues, c'est l'histoire de Theodore Roosevelt Jefferson. Ce n'est pas un président des États-Unis, mais un personnage plus connu sous le nom de The Screaming Night Hawk. Il est né au début du siècle dans une plantation de coton près de Yola, dans le Mississippi. C'est une légende du blues. Il aurait pu exister, mais en l'occurrence, il sort bien sûr directement de la tête de l'auteur Peter Guralnick. Night Hawk Blues, c'est aussi l'histoire de Jerry Lipschitz, grand amateur de blues, redécouvreur de The Screaming Night Hawk, pour finir par devenir son manager. Mais peut-on manager un bluesman? That is the question. Et Night Hawk Blues est surtout l'histoire de la relation entre ces deux hommes. Roman d'actualité, puisque le blues connaît un regain d'intérêt après une faste période dans les années 60-70 où il a été mis à l'honneur par de nombreux groupes rock-pop qui n'ont pas cherché d'ailleurs à cacher leur source d'inspiration mais qui ont tout de même pillé allègrement l'héritage musical de la communauté noire américaine. C'est là aussi un des enseignements que l'on peut retirer du bouquin de Guralnick. Le blues ne peut être une mode. Il a été un cri de ralliement, celui d'une population brimée, et il le restera, quoi qu'en fasse la société de consommation. « Je me débrouillerai très bien. Quand je ne le connaissais pas, ce gars dit Screaming Night Hawk à propos de son manager. Et je me débrouillerai encore très bien quand il sera parti. Des fois, il a même l'air de croire que j'existais pas avant lui. Mais j'existais depuis 60 ans avant de le connaître. » Night Hawk Blues de Peter Guralnick aux éditions Gallimard. Un bouquin qui vous donnera le blues, que vous soyez ou non amateur de cette musique.
Et voilà, Robert Johnson, donc un des classiques du blues. Alors donc Noir c'est Noir spécial 500e. Je vous ai annoncé un top 5 de ces 500 chroniques. Mais avant d'en arriver à un top 5, j'ai d'abord fait une sélection. J'ai d'abord essayé d'élaborer un top 50. Sachez que pour celles et ceux qui le souhaitent, ils pourront trouver sur le site de Radio PFM ou aussi peut-être sur le site Noir, c'est www.noircetnoir.com, hein, puisque on se modernise avec le temps, des informations, hein, et notamment ce livret spécial 500e avec le top 50 et puis plein d'autres choses. Donc dans un premier temps, j'ai choisi 50 chroniques à lire, mais surtout à écouter. Elles ont été écrites dans cette perspective. Donc, vous devriez, hein, je vous l'ai dit, pouvoir les entendre ou les lire sur le site de la radio ou aussi sur le site de Noir c'est Noir, tout comme d'ailleurs cette émission spéciale 500e. Cette sélection n'est rien d'autre que le choix d'un lecteur passionné. À l'avertissement de Jean-Bernard Puy en introduction de sa brève histoire du roman noir, je ne suis ni critique ni historien, encore moins universitaire. J'ajouterai me concernant, je ne suis ni écrivain, ni journaliste, ni l'auteur d'une brève histoire du roman noir. Et donc, tout comme l'écrit Jean-Bernard Puy, je n'ai pas tout lu et mon avis est à prendre avec des pincettes chauffées à blanc. Alors, avant, puisque je cite Jean-Bernard Puy, on va l'écouter dans un instant, nous parler justement du roman noir, avant d'en arriver au top 5. Je voulais aussi signaler que dans le document, le livret, on va dire, le livret spécial 500e, je vous propose une bibliothèque Noir c'est Noir, parce que le top 50 est quelque part frustrant. Un certain nombre d'auteurs que j'aime beaucoup, et puis aussi des romans classiques de la littérature noire n'y figurent pas. Donc je vous propose aussi dans ce document une bibliothèque idéale, en quelque sorte, la bibliothèque Noir c'est Noir, qui viendra compléter ce top 50 Noir c'est Noir, forcément frustrant, puisque n'y apparaissent pas, bien entendu, les écrivains qui ont fondé le roman noir et ou qui en ont fait une littérature à part entière. Pour compléter aussi hein, ce document, une liste que j'avais donnée à l'occasion du 25e anniversaire de Radio PFM en 2006. Et aussi, pour répondre à des demandes régulières de conseils de lecture de romans noirs. Encore une fois, cette bibliothèque que vous trouverez sur le site, cette bibliothèque Noir c'est Noir n'est que celle d'un simple lecteur. Dernière chose, et puis ensuite tu pourras appuyer sur le bouton, Jean, avant que tu n'attrapes une crampe. Je tiens à saluer l'érudit Claude Mesplet de la Cheville ouvrière du Dictionnaire des littératures policières, une bible pour Noir c'est Noir, l'éditeur de ce dictionnaire, Joseph K., est un pilier du genre et avait déjà permis la publication d'une somme inestimable, Les auteurs de la série noire, toujours signé Mesplède et Schléré. Joseph K. est enfin l'éditeur de Temps Noir, une superbe revue, la revue de référence depuis la disparition de Polar. D'autres ouvrages et revues ont permis d'enrichir Noir c'est Noir. Ils apparaissent bien entendu dans la liste des 500 chroniques hein, que vous trouverez aussi dans le document spécial 500e. En tout cas, je tenais à saluer Claude Mesplède. Et puis, merci à tous les éditeurs qui soutiennent et alimentent Noir c'est Noir. Donc, vous voulez en savoir un peu plus sur le roman noir, on écoute tout de suite JB. Ça fait un paquet de temps et de textes que le roman noir a gagné. Le roman policier est à enfoncer dans les poubelles de l'histoire. Le thriller dans les chiottes du néo-freudisme et le roman à énigmes dans le compost du sudoku. Il nous reste à bousiller le polar qui, s'il rime pauvrement avec 68 arts, rime aussi avec vicelard, ringard, connard, faiblard, etc. Je me souviens quand j'étais jeune et lycéen, le mec boutonneux, vaguement faillot et terriblement travailleur, eh bien on l'appelait le polar. Celui qui préférait la trigonométrie au basket, bref, le chiant, le chieur, le mec à pas sortir, à citer Flaubert et pas Peter Chenet, Malebranche et pas Raymond Chandler. Le seul site polar à l'époque, c'était le Lagarde des Michards. Je me souviens que le polar, en argot, c'est la bite, le pénis, le manche. Même Céline, dans Mort à crédit, écrit « Il a sorti son polar, il s'est foutu à la bourrée ». Les auteurs, gonflés comme des outres, qui témoignent soi-disant de leur monde, qu'ils choisissent leur camp, qu'ils disent simplement qu'ils sont des écrivains de romans noirs. Alors pour en finir totalement avec le polar, il suffit de ne plus en parler. À bas la polarisation du monde, vive le roman noir. Donc c'est du Jean-Bernard Puy dans le texte, extrait de ce petit livre, Une brève histoire du roman noir, publié chez L'Œil Neuf. Alors, on peut considérer quelque part que c'est une...
C'est la provoque, hein, ça.
C'est de la provoque en même temps, ouais. C'est aussi une profession de foi, parce que on est dans un genre, alors bon, on ne sait pas par quelle boule prendre, les littératures policières, le polar, le roman noir, etc. Mais là, Jean-Bernard Puy, vous faites quand même le choix de, tout au moins, le souhait d'abandonner le mot polar.
Mais après l'avoir bien accepté. Parce que c'est vrai que je l'ai vu apparaître, ce mot. Et avant, on disait le roman policier. Bon. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que le roman policier n'est pas réductible à toute la production du genre et qu'il y a les romans d'énigmes, il y a le roman policier, il y a les thrillers, c'est-à-dire le roman criminel, qui s'occupe plus du mal, et puis il y a le roman noir. Donc le polar, ça a été une facilité critique, universitaire, journalistique, pour désigner ces quatre genres qui étaient un peu traités de la même manière. Parce que c'est vrai que, par exemple, à la série noire, il y avait des thrillers, pas beaucoup, mais enfin, il y en avait quand même. Il y avait des romans énigmes, pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait beaucoup de romans policiers, énormément, parce que c'était à la masse. Et il y avait beaucoup de romans noirs. Donc, là-dessus, après, avec le temps, bon, on choisit. C'est-à-dire que moi, je fais pas de roman policier. Je n'arrive pas à...
Donc roman policier, alors.
Alors roman policier, c'est des romans où il y a des policiers. Ça peut être plus simple. Qui existe depuis extrêmement longtemps, qui existe depuis 1850, depuis Balzac et Edgar Poe. On peut même penser qu'il y en a eu peut-être avant, mais métonymiquement, c'est ça. Et bah, c'est le récit est mené par un policier, ou deux, ou trois. Donc c'est un roman qui a d'abord été simple, dans le sens où le personnage du policier c'est uniquement le moteur du récit, c'est lui qui va trouver la solution d'une énigme, d'un meurtre, d'une disparition, de hasard. Mais petit à petit, le policier, il est... tout le monde le connaît, et tout le monde essaie de l'éviter le plus possible, quand même, tout en l'appelant dès que ça va mal. Enfin, bon. Donc c'est un personnage qui devient beaucoup plus complexe, donc il y a les auteurs qui se détachent assez vite des policiers, en temps de crise, en temps de problématiques sociales et tout, parce que le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il défend la morale, la loi, la justice, le système. Alors, de temps en temps, c'est trop hard. Et c'est là où le roman noir est intervenu dans les années entre 20 et 30 aux États-Unis, parce que la ville, c'était des romans essentiellement urbains, la ville était tellement prise par la corruption, la formation des ghettos, les effets pervers de la prohibition, la corruption politique, tout ça qui fait que le policier, qu'est-ce qu'il défendait? Il défendait un gros tas de merde. Donc les auteurs avaient beaucoup plus de mal. Et les gens comme... James Cain, Hammett et compagnie, ont créé le détective justement parce que c'est un personnage de la vie civile et qui pouvait porter des jugements que le policier ne pouvait pas porter. Le roman policier dure toujours avec toutes ses versions. C'est-à-dire, il y a eu des versions extrêmement modernisées du roman policier où tout d'un coup, on s'intéresse plus au milieu de la police qu'au personnage lui-même. Et puis maintenant, par exemple, avec la mode de la littérature noire, du polar scandinave, disons, là, il y a des policiers intelligents, cultivés, ils sont déprimés tous, mais...
Ils font plus travailleurs sociaux que flics, quoi, non ?
Oui, non, et puis surtout, quand ils rentrent chez eux, ils lisent de la poésie transcendantale chinoise tout en écoutant du Mendelssohn, donc moi, j'aimerais bien en connaître des comme ça, parce que ça me rassurerait. Donc, moi, j'ai jamais écrit sur les policiers, donc j'écris pas sur le mal, non plus, sur la psychopathologie, c'est-à-dire ce qui concerne vraiment le thriller, les serial killers, tout ça, enfin, bon, les tueurs. Ça me gonfle, ça. Les romans énigmes, bon, Agatha Christie, certains l'appellent Agatha, d'autres l'appellent Agato, comme disait notre ami des proches. Donc moi j'écris du roman noir, parce que le roman noir est essentiellement et pratiquement obligatoirement un roman de critique sociale, et c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Quitte à le déconner autour, hein, je veux bien dire, mais c'est ça le niveau numéro un.
Donc on est, bon, c'est le premier, c'est le premier chapitre de cette brève histoire du roman noir. 9 chapitres d'ailleurs, c'était la règle à suivre. C'est une série de bouquins, une collection brève histoire, donc avec déjà un certain nombre de sujets qui ont été abordés, le rugby, etc. Donc à chaque fois 9 chapitres. Donc pour le roman noir, c'est pareil. Donc le premier chapitre, c'est Empoignons la bête. Donc on vient de le faire. Alors donc, si je résume, Jean-Bernard Puy, ce qu'on appelle le polar, c'est les littératures policières. C'est-à-dire le roman policier,
oui,
le roman
mais moi,
énigme.
Je veux plus qu'on dise policier, parce que dans le roman noir, c'est pas une littérature policière.
Voilà, les Allemands parlent de roman criminel, par exemple.
Criminel, c'est le... Oui, le crimi, c'est plutôt le... Pour moi, c'est plutôt le thriller. Mais c'est les Italiens.
Donc le thriller, c'est le roman du... Ah, mais c'est... Pour moi, le thriller, c'est le roman de la victime.
Oui, c'est ça, c'est le roman du mal.
Ouais.
La victime ou l'assassin, généralement, ils sont quand même très très liés. Et,
Roman noir, alors ?
Ah, le roman noir, c'est un roman, ça commence avec... avec Ahmed, Chandler, McCoy et compagnie. Et
peut-être avant aussi, parce que quand
Manchette, qui fait aussi du roman policier sur un, je crois, mais qui fait essentiellement du roman noir avec un détective une fois, mais après avec des personnages de la vie civile, une infirmière, un cadre dans la débine, un tueur, mais un tueur politique. Donc, c'est... On oublie un peu le côté enquête, c'est-à-dire on oublie un peu...
Mais il peut quand même y avoir des policiers dans le roman noir. Et des policiers aussi, dans le roman noir.
Oh, ils peuvent intervenir, mais ce ne sont pas les personnages principaux. C'est comme même historiquement, dans les romans de Chandler, Marlowe et compagnie, ils ont toujours les emmerdes avec les policiers qui veulent lui enlever sa licence.
Licence de détective.
Qui foutent de newf, avec eux, c'est toujours un concours de vannes lamentable. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'auteur de romans noirs se méfie des auteurs de romans policiers. Voilà.
Donc, surtout ne pas dire Jean-Bernard Puy, auteur de polar.
Non, si, on peut le dire, parce que le roman noir fait partie du polar. Mais maintenant, je préférerais dire auteur de romans noirs.
Auteur de romans noirs.
Tout ça pour m'opposer un peu au roman policier, parce que je trouve que... Il y a des chiens policiers, il y a des tas policiers, et tout ça, des romans policiers, ça fait un peu beaucoup, quoi.
Alors, employons la bête, ça commence...
Ça va être dur. Réveil à 6h30. Misère de misère. Falloir travailler. Sol dans ma chambrette. Là.
Sur Radio PFM 99.9, émission Tumulte spéciale, anniversaire 500e de Noir, c'est Noir. Bon anniversaire, bon et noir anniversaire, Guy.
Merci, merci Jean. Et concentre-toi parce que bientôt tu vas être sollicité aussi. Hein. Donc, Jean-Bernard Pouy, interview. Et en plus, alors il y a quand même une quinzaine d'années entre les deux enregistrements. Et puis bon, un enregistrement interview classique et un autre musical plus élaboré. Mais c'est bien lui qui lisait, chantait... qui lisait un texte. C'est extrait d'un CD qui s'appelle Rouge Sumac, Polar Blues, Rénal et Puy. Les deux Lascar, Puy, dont on a déjà parlé, Rénal, hein, qui a été le patron de la série Noire, qui est actuellement le patron de Fire Noir, eh bien, ont écrit une dizaine de chansons qui ont été adaptées par un groupe de blues et enregistrées. Donc, le CD... est disponible, hein, mais vous aurez du mal à le trouver sur Internet, sans doute. Donc ça s'appelle Rouge Sumac, Polar Blues, Rénal and Puy. Je vous annonçais aussi en début d'émission la possibilité eh bien, de gagner des livres. Enfin, c'est plutôt Noir c'est Noir qui vous offre des livres. Et la première possibilité, bah, justement, c'est le livre de JB, Jean-Bernard Puy, Une brève histoire du roman noir paru à l'œil neuf, hein, qui était le sujet de l'interview dont on a écouté un extrait il y a un instant. Un petit livre très, très sympa parce que, bon, plein de pistes de lecture et puis une analyse du genre toujours très pertinente. Si vous êtes intéressé par ce petit bouquin, il y en a trois, eh bien, il faut alors plusieurs possibilités. Vous envoyez un mail à la radio, Jean, l'adresse mail. Hein, voilà, Jean, je t'avais dit de tenir prêt. Hein, c'est simple, c'est W. Ouais.
Non,
c'est la, ah, oui, c'est pas le site, surtout. Hein,
pfm@radiopfm.com.
Voilà, c'est simple. Éventuellement, vous téléphonez hein, en journée ou sinon vous laissez un message sur
03 21 50
99
99.
Voilà le téléphone. Et donc les trois premiers auditrices, les trois premiers auditeurs qui s'annonceront, eh bien, recevront par la poste. Donc il faudra bien laisser vos coordonnées postales directement le livre expédié très gentiment par Jean-Bernard Pouy, qui s'associe donc aussi à cette 500e, à cette émission spéciale. Donc je vous avais annoncé un top 5 des 500 chroniques. Donc à partir de... alors avant d'en arriver au top 5, hein, je vous ai dit, j'ai élaboré un top 50. Donc à partir de 50 romans noirs publiés en France entre 1994 et 2010... avec des absents, donc forcément, Didier Denax et Thierry Jonquet, par exemple, dont je préfère nettement les romans qui ont été publiés avant cette période, mais qui ont toute leur place hein, dans la bibliothèque Noir c'est Noir. À partir de 50 romans noirs écrits par 50 auteurs, certains auteurs auraient pu placer plusieurs de leurs titres. Je pense par exemple à Donald Westlake qui a alimenté 11 chroniques, sans compter celle sous le pseudo de Richard Stark pour 11 romans dignes de figurer dans ce top 50. À partir de 50 romans noirs et pas autre chose, désolé monsieur Marc Villard, mais j'ai ainsi écarté très arbitrairement les recueils de nouvelles, aussi bons soient-ils. À partir de ces 50 romans Noir c'est Noir, majoritairement publiés dans des collections réservées à ce genre, eh bien j'en ai sélectionné 5 pour un top 5. Là, c'est un peu fou, un peu con, mais c'est en pensant à celles et ceux qui ne veulent que la crème de la crème à ma sauce, bien entendu. Le premier, et donc on va écouter la chronique correspondante, le titre c'est Suerte de Claude Lucas, en collection Terre humaine chez Plomb. C'était le noir, c'est toujours le noir numéro 58. J'ai lu le livre de Claude Lucas en 1996. Je garde toujours le souvenir d'une puissance littéraire rare au service d'un témoignage ébouriffant. Claude Lucas est de ceux que la prison a amené à écrire. S'il est son propre sujet, il nous donne là un roman noir qui dépasse bien des fictions pures. Noir c'est Noir, numéro 58. Top chrono. 3, 2, 1. Une brève évocation sur une radio, mea culpa, non,
l'associative. À ma décharge, cette radio n'est pas non plus commerciale, vous n'y entendrez ni pub, ni jeux infantilisants. Ces animateurs ne sont pas des vedettes, même s'ils peuvent parfois adopter un ton intello. Je n'en dirai pas plus et vous laisse deviner. Une brève évocation, donc, dans une émission dont l'invité était Jean Mallory, fondateur et animateur de la célèbre collection Terre humaine chez Plon. Une brève évocation de Suerte de Claude Lucas, dernier titre en date publié dans cette même collection. Une brève évocation et on se dit qu'il faut absolument aller y voir de plus près. Sachant tout d'abord qu'en 40 ans d'exercice, Terre humaine en est à la publication de son 68e titre, chacune de ses publications est donc un événement. Sachant aussi que cette collection tente de construire, dixit l'éditeur, une anthropologie à part entière où toute théorie ne s'élabore que sur une expérience vécue et que les auteurs qui s'y rejoignent eh bien, le font pour faire prendre conscience au lecteur tout à la fois de sa propre intelligence, des problèmes et de la complexité des sociétés et des civilisations. Sachant d'autre part que l'auteur de la dernière livraison a été condamné en 1963, il avait 20 ans, pour le meurtre d'un proxénète à 5 ans de prison avec sursis, qu'il a séjourné de 1965 à 1970 à la prison d'Ensisheim pour vol et port d'armes, qu'il a été condamné 10 ans plus tard à 8 ans de réclusion criminelle pour un hold-up chez un diamantaire, qu'une fois libéré en 1985 avec un diplôme de premier cycle universitaire de philosophie en poche, il retournera quelques années plus tard derrière les barreaux espagnols, cette fois, avant d'être extradé en France en 1994 à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône où il est toujours en attente de son jugement. Sachant enfin qu'il a été donné comme sous-titre à ce livre « L'exclusion volontaire », comment l'amateur de polar, de roman noir, pourrait-il alors détourner ses yeux d'un tel livre, le livre du parcours d'un rebelle à la vie, à notre vie, le livre d'un esprit méditatif, torturé par l'existence même. Certes, Suerte n'est pas un thriller, comme Audi l'éditeur parle de faux thriller, l'auteur de thriller avec distanciation. Personnellement, je parlerai de méta-thriller, à savoir un texte qui englobe, qui dépasse son objet même. L'amateur de sensations fortes y trouvera son compte. Claude Lucas n'a rien à envier au meilleur dialoguiste de série noire. Mais l'éternel dialecticien aura aussi du grain à moudre avec celui que la presse espagnole a surnommé le gangster philosophe. Ne vous attendez donc pas à fantasmer sur un hypothétique banditisme héroïque, notre braqueur, peut-être atypique et plutôt du genre ascète. Le bandit, le hors-la-loi, le Claude Lucas est un exclu volontaire, mais avant tout un exclu. Et qui plus est solitaire, bien qu'il noue des relations d'amitié et de complicité fortes. À l'air libre ou entre quatre murs, le malfaiteur est un solitaire. Cette solitude est criante une fois les portes de la prison refermées, une prison dont l'inadaptation est de plus en plus flagrante au fil de la lecture de Suerte. Mais cette solitude est aussi latente durant les coups et les cavales. Cela explique sans doute le peu d'attachement à la vie que montre Claude Lucas, qui n'hésite pas à retourner son arme contre lui-même après un casse raté. Mais s'il est d'un autre monde, il n'est pas encore dans l'au-delà, son flingue s'enrayant miraculeusement pour l'occasion. Roman autobiographique imprégné de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, Suerte évoque avec une justesse de ton impressionnante et dans un style adapté, Suerte évoque à la fois la détermination du braqueur, mais aussi la langueur stérile de la vie carcérale. Suerte, chance en espagnol, est sans doute une chance pour son auteur, mais incontestablement une chance pour le lecteur. Suerte de Claude Lucas, dans la collection Terre humaine, le noir c'est noir de l'année. Qu'on se le dise, bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus noires.
One of the top writers, well, I don't have to tell you who Bob Dylan is, the greatest writer of our time, was at our house, and he and I sat down and wrote a song together. And let me see if I can find that damn thing. I'll sing it for you. Yeah, here it is. It's called Wanted Man. You know the introduction, Bob? Okay.
Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, 'cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. But I've had all that I wanted of a lot of things I had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Da-da-da. Stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse, wanted man in grab me anywhere that I might be, and wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man.
Johnny Cash en concert à la prison de Saint-Quentin. La prononciation, Jean n'a pas réussi à m'aider. S'il y a des gens qui en ont une idée, qu'ils nous le fassent savoir. Un disque en hommage donc à ces écrivains qui ont connu la prison. Et dans Noir c'est noir, j'en ai chroniqué quelques-uns. Donc Claude Lucas, qui fait partie de mon top 5, mais aussi Chester Himes, Edvard Bunker, Donald Goines, Nano Rousseau, qui a obtenu le prix à Mila Mekier il y a 4-5 ans. Et plus récemment, un écrivain que je viens de découvrir et que j'ai chroniqué il y a peu, Sam Millar, qui vient de sortir un bouquin, Redemption Factory, chez Fayard Noir, qui vaut le détour. Qui plus est, une chanson Wanted Man écrite pour Johnny Cash par Bob Dylan. On est vraiment dans l'ambiance noir c'est noir. Alors on va poursuivre le top 50, le top 5, avec le deuxième livre que j'ai retenu. Cette fois, c'est Donald Westlake, Le Couperet, en rivage noir. C'est le Noir c'est noir numéro 177. Donald Westlake pourrait être le fil rouge de Noir c'est noir, un auteur jamais décevant, toujours surprenant. Des sacrées histoires à chaque fois, j'aurais pu choisir Ordo ou encore Kahawa, j'ai finalement retenu Le Couperet, tout simplement parce que ce roman noir illustre au mieux ce que l'on appelle littérature populaire de critique sociale, une littérature qui ne demande pas de décodeur, mais une littérature qui décode son temps. Si Le Couperet est tout d'abord, selon les dictionnaires Larousse Lexis, un couteau large et court pour couper la viande, il est aussi une grosse lame tranchante et en particulier le couteau de la guillotine. Je pense que c'est en référence à cette troisième définition que l'éditeur a choisi le titre de ce roman de Donald Westlake, intitulé à l'origine The Axe. Un peu plus de 2 ans après sa parution en grand format, voici donc le couperet, disponible aujourd'hui en poche dans la collection Rivage Noir sous le numéro 375. Peut-être aurez-vous, comme moi, attendu cette réédition plus économique. Attente pas vraiment facile, il faut le dire, car le couperet, à sa sortie, a fait pas mal de bruit et a récolté pas mal de récompenses. Un roman de Westlake qui sort, c'est déjà un petit événement dans le milieu du polar, non parce qu'il en sort peu, mais bien parce que le monsieur est plutôt bon dans son genre. Alors quand, en plus, la sortie d'un de ses titres provoque un concert de louanges, c'est que Westlake a dû taper dans le mille. Difficile dans ces conditions de patienter. Mais comme tout vient à point à qui sait attendre, le couperet est aujourd'hui dans les rayons poche et au sommaire de ce Noir c'est Noir. Le point de départ du roman est assez simple et malheureusement banal. Burke Devore vient de perdre son emploi. Il a la cinquantaine et derrière lui, une bonne vingtaine d'années en tant que cadre maison dans une papeterie. Une situation peu propice à un retour dans le monde des actifs, du moins avec un niveau de responsabilité équivalent. Avenir d'autant plus sombre que son licenciement est le résultat des restructurations, des compressions de personnel qui n'épargnent pas le secteur de la fabrication du papier. Moins simple et nettement moins banal est la stratégie mise en place par Burke Devore pour retrouver une vie tranquille. Vie tranquille car évidemment avec le chômage, sa vie se délite complètement, de son couple à ses amis en passant par ses enfants, tout se déglingue. Burke Devore décide, après X entretiens sans suite, de ne pas rester passif. Il passe à l'acte. Sa cible, ses cibles, des demandeurs d'emploi comme lui, avec le même profil et à la recherche du même type de poste. Et en bonus, un vénard qui a échappé au dégraissage et qui occupe justement un poste qui colle parfaitement à son profil professionnel. Le bon père de famille se transforme en tueur implacable. Tout cela peut sembler simple, voire simpliste, qui n'a pas en effet un jour rêvé d'éliminer un concurrent ou un adversaire, même si de là à mettre en application cette solution radicale, il y a beaucoup plus qu'un pas. La force de Westlake est de donner énormément de corps à son personnage alors qu'il se lance dans cette entreprise d'élimination. Le processus de métamorphose est décrit avec précision, car il s'agit bien d'une métamorphose. Le tout est traité avec toutes les ficelles du vieux briscard du polar, ce qui permet à l'histoire de prendre une dimension complètement réaliste. Résultat, et c'est à cela que l'on repère les grands du polar, c'est finalement notre foutu monde qui est en procès dans ce livre, véritable plaidoyer contre les ravages de l'économisme à tout craint. Le couperet de Donald Westlake, Rivage Noir numéro 375, si l'on parle parfois de désintégration sociale comme conséquence du libéralisme économique, il faudrait sans doute ajouter déshumanisation. Un roman qui tranche dans le vif. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus solidaires.
Voilà donc deuxième chronique top 5 parmi les 500 chroniques Noir c'est Noir qui existent à ce jour, le couperet de Donald Westlake. Je vous disais donc un roman qui illustre au mieux ce que l'on peut appeler littérature populaire de critique sociale et un roman publié chez Rivage Noir, une collection créée et dirigée par François Guérif qui est quelqu'un vraiment très important en France pour cette littérature. Et avec Jean, on a aussi rencontré François Guérif, je ne sais pas si tu t'en souviens Jean, c'était...
En cours du festival de l'autre cinéma.
Oui, voilà, il y a 4-5 ans, François Guérif était venu avec Claude Chabrol.
Voilà, il l'accompagnait. Ouais.
Voilà, il l'accompagnait, ils avaient donné une leçon de cinéma autour de crime et cinéma. Et donc, c'était l'occasion pour nous de rencontrer François Guérif. J'ai réécouté l'interview, une longue interview, hein, quasiment trois quarts d'heure qu'il nous a donné. Très très intéressant, il faudra qu'on la repasse peut-être un de ces jours, hein, dans Tumulte. Jean, en tout cas, je vous ai sélectionné, un extrait autour justement de ce que peut, comment peut-on définir le roman noir.
Justement, alors on va essayer de définir ensemble, enfin vous, comment vous définissez ce genre? Alors est-ce que c'est du roman noir, du roman policier, du polar? Quel est le mot que vous préférez utiliser? Bon, quand vous avez créé la collection, on va y revenir, hein, la collection de référence, vous n'avez pas créé rivage policier, vous avez créé rivage noir.
Oui, c'est vrai, le noir va très bien, c'est une... Le mot film noir, je crois, est une invention d'un critique français qui s'appelait, je me souviens plus, qui disait aussi les Américains font aussi des films noirs, en effet, qui était une intuition de génie dans le sens, c'est très difficile à définir, film noir, mais qui était que quand on parlait de films policiers, il y a une catégorie de films policiers où c'est des films très rassurants. Quand je dis très rassurants, moi je résumerais ça comme ça, si vous voulez, il y a un délit. Donc il y a un délit, il y a un accroc qui est fait à la société, un enquêteur arrive, on arrête le coupable et l'accroc est réparé. C'est presque des films sécurisants, même si ça ouvre des fenêtres sur un univers un petit peu trouble qui risque peut-être de vous engloutir. Le film noir, c'est le contraire, dans le sens où, même si ça participe, comme dirait Chabrol, de la même démarche au départ, il y a un délit. Le délit peut être apparemment réparé à la fin du film, mais en fait, ça n'est pas du tout rassurant parce qu'on se rend compte que le malaise reste. Parce que ce n'est pas l'arrestation du coupable qui a résolu tous les problèmes, parce qu'en fait, le problème, dans son essentialité, reste. Donc, c'est Patrick Brion lui-même qui a dit un jour, dans une émission de télévision, on était tous les deux ensemble, il a dit « c'est un genre impossible à définir ». Ça me faisait plaisir que pour une fois, ce soit à lui qu'on ait demandé une définition et pas à moi. Je dirais, pour résumer, si vous voulez, qu'il y a deux grandes catégories dans le roman policier. C'est vrai, ce qu'on appelle le whodunit, le roman policier classique, qui est un peu ce que je vous ai dit. Il y a à la Agatha Christie, il y a un délit, il y a un détective, et à la fin, tout est réparé. Et par contre, dans le film noir, c'est le contraire. Ou alors, on peut dire, comme Ballonard-Sojac, qui ont dit une chose un jour, à mon avis, qui est formidable, il y a trois sortes de romans policiers. Il y a le roman du flic, qui est le roman à énigme, c'est-à-dire c'est lui qui répare le désordre. Il y a le roman du criminel, ou du moins du suspect, qui est le roman noir. On le suit dans ses errances et tout, et c'est pas du tout rassurant. Et puis il y a le roman à suspense, qui est le roman de la victime. C'est-à-dire vous rentrez un soir chez vous et... vous vous rendez compte qu'on a changé la serrure, vous sonnez, votre femme vient vous ouvrir, elle vous dit « je vous connais pas, je te connais pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et il va y avoir, je tombe dans un cauchemar, et il doit y avoir une explication rationnelle, et où est-ce qu'elle est ?
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une dimension sociale qui peut différencier les deux oui. grandes familles, ou les trois familles, c'est-à-dire le roman énigme, hein, qui est en cercle clos, et le roman noir, où là, il y a quand même une immersion dans la société qui nous entoure?
Tout à fait, et c'est la fameuse phrase de Chandler, et il a tout à fait raison. D'Achille Hamet a sorti le crime du vase vénitien où il était, c'est-à-dire genre jeu de société, pour le jeter en plein milieu de son milieu qui est la rue, c'est tout à fait vrai. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est pas aussi clair et simple que ça, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des romans à énigmes qui ne sont qu'une énigme, hein, qui sont, dans le château de Monsieur le Duc Intel, la duchesse a été assassinée, il y a 12 suspects, on les passe les uns après les autres après la molinette, et à la fin le détective dit c'est nuit, d'accord. Mais, et puisqu'on est avec Chabrol, c'est intéressant, Ruth Rendell, par exemple, qui l'adapte dans Mademoiselle d'honneur, c'est quoi? C'est un mélange des deux, quand même. C'est à la fois, elle était connue d'ailleurs avec les enquêtes de l'inspecteur Wexford, un fait whodunit, mais quand on lit la Mademoiselle d'honneur ou l'alphabet qu'a donné la cérémonie, ça a évidemment des grosses accointances avec le film noir ou le roman noir. Tout comme Agatha Christie, même Agatha Christie, la fameuse dame Agatha que tous les jeunes auteurs de romans noirs, dans un numéro de polar, sur lesquels ils ont tous craché et tout, Il y a quelques romans d'Agatha Christie où l'enquête débouche sur une réalité sociale importante, où d'un seul coup, c'est une dénonciation aussi de cette société anglaise figée avec leur petite dame, Miss Marple et tout, où d'un seul coup, on préfère cacher le crime pour éviter que ça fasse des remous. Donc, c'est pas aussi tranché. C'est pas aussi tranché. Le jeu de salon, il existe dans des bouquins comme ceux de Van Dyne, des trucs comme ça, mais en fait, je crois que par définition, le roman policier, même le roman énigme, il est social, dans le sens où même quand c'est soi-disant un jeu de salon, le choix de la victime et le choix de l'assassin sont toujours révélateurs d'un trouble de la société. Alors évidemment, il y a des auteurs qui font de cette révélation une revendication, presque un édit de révolte, et il y en a d'autres qui ne font peut-être qu'un constat gentil ou moins gentil. Mais par définition, et là je suis assez d'accord avec Chavrol, par définition, ce qu'il a dit ce matin, c'est que ça parle du bien et du mal, de la mort et de la vie, et tout, et on est quand même, même dans les plus grands romans d'énigmes, Sherlock Holmes, l'homme à la lèvre tordue. C'est quoi Sherlock Holmes? C'est quand même extraordinaire, l'homme à la lèvre tordue, c'est quoi l'histoire? Un type qui a disparu, il n'a plus de boulot, il s'est transformé en mendiant dans le métro. Vous ne croyez pas que c'est une histoire qui pourrait servir aujourd'hui?
Un cadre qui serait viré. Voilà, donc on interrompt François Guérif. Vraiment une rencontre très intéressante. Donc je vous rappelle, François Guérif, patron de Rivage Thriller, Rivage Écrit Noir. Sachez aussi que chez Rivage, il y a une nouvelle collection, Rivage Rouge, dont plusieurs livres ont été chroniqués dans Noir c'est Noir. Et surtout, donc François Guérif, patron de Rivage Noir, la collection de poches, depuis que la série Noir n'existe plus en poche, hein, la collection de poches de référencer. François Guérif et Rivage Noir font un clin d'œil à Noir c'est Noir, puisque pour cette 500e spéciale, hein, Noir c'est Noir, ils nous ont laissé quelques exemplaires du 800e justement numéro de Rivage Noir. Et c'est pas rien comme roman. Ça tombe bien, en plus il doit avoir à peu près 800 pages. C'est le dernier roman de Denis Lehane, Un pays à l'aube. Denis Lehane, l'auteur de Mystic River, Shutter Island, etc. L'écrivain américain de Détroit, si mes souvenirs, de Boston. Hein. La ville de Denis Lehane, c'est Boston. L'écrivain américain qui monte et qui, d'ailleurs, parmi d'autres, n'est pas très loin du top 5 Noir c'est Noir. Donc, il en reste un de Denis Lehane, Un pays à l'aube, le Rivage Noir numéro 800. Ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous rappelle, vous envoyez un mail, Jean.
Radio PFM, donc l'adresse mail pfm@radiopfm.com. C'est pas compliqué. Ou vous téléphonez.
Vous téléphonez 03 21 50 99 99 et vous laissez vos coordonnées si
c'est
le.
Laissez bien vos coordonnées, en tout cas si vous envoyez un mail.
Voilà. François Guérif est aussi un grand spécialiste, on l'a entendu un peu dans cette interview du film noir. On écoute une musique de film noir et Jean, ensuite tu passes à la question. Mm-hmm.
Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Tumulte spécial anniversaire, 500e de Noir c'est Noir avec Guy.
Alors Jean, tu es... Jean, tu as reconnu qui derrière cette musique?
Alors,
trompette.
Trompette Miles Davis.
Miles Davis. La voix.
La voix.
Un blues, bluesman, un des plus...
John Lee Hooker.
John Lee Hooker, effectivement. La guitare.
Alors la guitare...
Acoustique guitare.
Acoustique guitare.
Un bluesman aussi, avec un nom un peu... Un peu indien, importe.
Ah, Taj Mahal.
Taj Mahal.
Là, voilà, donc, tu me simplifies la
tâche. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Réunir John Lee Hooker, Miles Davis, Taj Mahal à la basse, Tim Drummond et à la slide guitare, Roy Rogers. C'est Dennis Hooper qui a réuni ce beau monde pour une bande originale, musicale, d'un film qu'il a réalisé il y a quelques années, The Hot Spot, d'après un roman de Charles Williams. On est toujours dans le Noir c'est Noir. Le roman s'appelle Je t'attends au tournant. Et donc, une sacrée affiche, une sacrée ambiance. Dennis Hooper, hein, qui est mort il y a quelques mois, oui, hein, il y a peu de temps. Mais en tout cas, une sacrée bande originale. Je vous la conseille. Je vous conseille le film et donc cette musique, The Hot Spot. Top 5 Noir c'est Noir, troisième sélection après Suerte de Claude Lucas, après le couperet de Donald Westlake, j'ai choisi Vers une aube radieuse de James Liebert, Rivage Noir. C'est le Noir c'est Noir numéro 270, sans doute pas le roman de James Liebert le plus connu, pas de Dave Robichaud ici, son flic fétiche de New Iberia en Louisiane, vu au cinéma. Il y a peu de temps à l'occasion de l'adaptation de Dans la brume électrique avec les morts confédérés d'un cinéaste français, si mes souvenirs sont bons, Tavernier, c'est ça. Vers une aube radieuse est le deuxième roman de James Liebert, mais édité en France seulement en 1997, près de 30 ans après sa sortie aux États-Unis, ce qui explique la présence dans cette sélection en France. On ne l'a découvert qu'en 1997. Une terrible exploration de la violence sociale. James Liebert est aujourd'hui connu et reconnu dans le monde du roman noir, notamment pour ses romans mettant en scène Dave Robichaud, flic de New Iberia en Louisiane. Avant cette reconnaissance et ce succès, avant son entrée dans la littérature noire en 1985 avec La pluie de néon, James Liebert a tâté, comme de nombreux de ses collègues, divers boulots et surtout, il a tâté de l'écriture tout court. Son deuxième roman, Vers une aube radieuse, publié aux États-Unis en 1970, est aujourd'hui disponible en poche dans l'indispensable collection Rivage Noir. Je vais être direct, c'est à mon avis une lecture effectivement indispensable à celui qui s'intéresse à la littérature américaine, à la littérature d'expression populaire et de critique sociale, bref, à la littérature en général. À peine sorti de l'enfance, Perry Woodson Hatfield James vit dans la région la plus pauvre des Appalaches, livré à des exploitants miniers qui portent bien leur nom car, vous l'aurez deviné, ils exploitent autant la main-d'œuvre locale que les gisements de charbon. Nous sommes dans les années 1950, les mineurs s'organisent et passent à l'action. Le premier chapitre du roman de James Liebert nous plonge et plonge Perry dans le bain des luttes ouvrières sanglantes. Il se retrouve avec un commando de choc qui a pour tâche de détruire le stock de charbon d'une mine injuste qui n'engage pas les syndiqués, pour reprendre une inscription portée par les grévistes sur un panneau. Perry est mineur depuis une bonne année, il connaît le métier et surtout il connaît la puissance des explosifs que vont utiliser les ouvriers révoltés. Perry doute. Il aurait bien voulu se trouver à la maison, écrit l'auteur. Il avait bien trop peur pour se soucier s'il travaillait au tarif syndical ou pas. Peut-être que le patron ne peut pas se permettre de payer le tarif syndical garanti et qu'on s'attire des ennuis si on essaie de faire entrer le syndicat dans les mines. On s'en sortait pas si mal avec ce qu'il nous donnait. $20 par jour, c'est plus que ce qu'on a comme gréviste. Il n'y avait pas de fusillade avant, il n'y avait pas non plus quelqu'un qui nous coupait le crédit au magasin. Perry sentit alors une vieille et secrète honte
face à sa peur. Il savait qu'aucun James ou Hatfield de la famille n'avait jamais craint les exploitants de mines, les briseurs de grève armés de leurs manches de hache. Son grand-père disait qu'il était de la famille de Frank et Jesse James. Avec une pensée pour ces célèbres hors-la-loi, Perry va réussir à tenir. Il sera en cela bien aidé par ses compères, trempés dans la détermination de ceux qui portent une juste cause et qui n'ont pas grand-chose à perdre. Ne s'agit-il pas, en effet, de simplement se battre pour faire manger les siens? L'explosion fera bien entendu de sacrés dégâts. Un gardien de la mine, un jaune, y laissera sa peau. Perry, qui a plutôt intérêt à se faire discret, va alors tenter de se caser dans un autre boulot, dans un autre état. Il est à deux doigts d'aboutir, mais son père mourant, Perry n'a pas le choix. Il doit rentrer au pays pour assumer ou tenter d'assumer le quotidien de sa mère, de ses frères et sœurs. De piquet de grève en patron pourri, le syndicat pas toujours très clair en mineur prêt à tout, la violence sociale qui se dégage de ce roman est à la mesure des espoirs de justice qui l'anime. Vers une aube radieuse de James Lieber, Crivage noir numéro 491, il y a du Steinbeck dans ce roman, du Steinbeck des raisins de la colère. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus engagées.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Un bouquin intelligent et riche, vous disais-je, en mars 2000, dans le Noir c'est noir numéro 153, en parlant de Electre à la Havane de Leonardo Padura. Je précisais, intelligent, parce que pas un bouquin simple, simpliste, et pas pour autant un bouquin compliqué, complexe. Adios Hemingway, dernier roman traduit à ce jour de Padura, pourrait recueillir ces mêmes commentaires. L'auteur nous explique dans une note le comment de ce livre. « Mon éditeur brésilien, écrit-il, m'a demandé de participer à la série « La littérature ou la mort ». Si j'acceptais, je devais leur communiquer le nom de l'écrivain autour duquel le récit se déroulerait. Je n'eus pas besoin de beaucoup réfléchir pour m'enthousiasmer pour le projet, et l'écrivain qui me vint immédiatement à l'esprit fut Ernest Hemingway, avec lequel j'ai entretenu des années durant une relation tumultueuse d'amour-haine. Cette commande va aussi réactiver le personnage récurrent de Padura, le lieutenant Mario Conde de la police criminelle de La Havane, que l'on côtoie par exemple dans Electre à La Havane. Un Mario Conde dont l'auteur avait pourtant choisi de s'écarter en le faisant démissionner de la police pour se consacrer à l'écriture et au commerce des livres anciens. Mais alors que je cherchais le moyen de confronter mes propres dilemmes personnels avec ceux de l'auteur de Paris est une fête, écrit Padura, je n'ai pas eu meilleure idée que de transmettre mes obsessions au Condé, comme je l'ai fait si souvent, et d'en faire l'acteur de cette histoire. Le Condé n'a effectivement pas beaucoup hésité quand Manolo, son ex-collègue, est venu le trouver pour un petit coup de main. Un orage tropical a pris pour cible la Finca Vigia, la maison de Hemingway à La Havane, aujourd'hui transformée en musée. C'est en particulier un manguier du jardin qui a dégusté. L'arbre, il est vrai centenaire, est tombé. Et ce n'était pas seulement ses racines qui avaient été déterrées, mais des ossements que les experts identifièrent comme appartenant à un homme décédé entre 1957 et 1960 de deux balles tirées, presque à coup sûr, par un fusil. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que le Condé se revoie un jour de 1960 avec son grand-père à Cojimar, croisant par hasard Hemingway en personne rentrant d'une virée en mer. Il n'en faut donc pas beaucoup plus, une quarantaine d'années plus tard, pour que le Condé s'empare de cette enquête, et il n'en faut pas beaucoup plus pour que l'auteur réussisse un coup de maître. En tentant de résoudre l'énigme de la Finca Vigia et au travers de ses années cubaines, le Condé va s'interroger sur l'homme Hemingway, sur son œuvre, sur sa mort et donc sa vie, avec en toile de fond la révolution cubaine. Une révolution qu'Hemingway considérait comme une victoire pour ses amis pêcheurs et pour les gens du peuple. Une révolution pour laquelle on ne connaît pas vraiment son engagement, mais qui lui laissera le souvenir amer de la perte de son chien préféré, Black Dog, abattu par les soldats de Batista en juin 1957. Le régime en place soupçonnait que la propriété de l'écrivain servait de cache d'armes aux opposants. Si mes sources sont bonnes, le numéro du magazine littéraire de juin 1999 consacré à Hemingway se détaille à son importance et mérite interrogation. Padura choisit en effet de laisser lui, Black Dog, en vie et de lui permettre d'encore accompagner son maître en 1958. Adios Hemingway de Leonardo Padura aux éditions Métellier. Une rencontre pleine de finesse avec Hemingway, une invitation à lire, relire et mieux connaître celui qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1954. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus Black Dog. Oui, Jean, donc le quatrième top 5, Adios Hemingway de Leonardo Padura, chez Métellier, Noir c'est Noir numéro 295. Vous l'avez compris, Leonardo Padura est cubain, Hemingway a vécu à Cuba entre les deux. Mario Conde, le détective plus intéressé par les livres anciens que par son boulot. Beaucoup de finesse, comme dans tous les romans de Padura, et là, en plus, un sacré « Je t'aime moi non plus » avec le mythique Hemingway. Je vous avais annoncé des livres à gagner. Enfin, Noir c'est Noir vous offre des livres. Avec un peu de chance, il devrait y avoir deux ou trois exemplaires de Adios Hemingway à gagner. Les éditions Métallier doivent me les envoyer. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, s'ils arrivent, je pense qu'ils vont arriver, eh bien, vous téléphonez à PFM ou vous envoyez un mail, on redonnera les coordonnées en fin d'émission. On souffle un peu encore avec Otis Redding, genre on le laisse filer. Voilà. I've got the month of May
what can make you, ooh, me feel this way. This my girl talking about my girl. I've got so much loving, all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl.
Magazine Tumulte sur Radio PFM, spécial 500e anniversaire de Noir c'est Noir avec Guy.
Oui, merci. Encore merci, Jean. Allô, allô, tu m'entends? Oui, encore oui. Merci, hein, Jean, de m'accueillir dans
notre émission.
Dans Tumulte, notre émission, mais hein, que tu animes en grande partie seul, malheureusement. On va bientôt terminer le top 5 hein, de ces 500 Noir c'est Noir avec donc Underworld USA de James Ellroy en rivage thriller. Noir c'est Noir numéro 490, il est tout frais, c'est le premier de la saison 2010-2011, une trilogie fondamentale puisque Underworld USA, le titre du troisième roman volé de Ellroy, porte le titre de la trilogie. Donc une trilogie fondamentale. Donc le premier volet est sorti au tout début de Noir c'est Noir, il y a près de 15 ans. Underworld USA termine donc un travail littéraire d'envergure où l'écriture donne corps au sujet traité, l'histoire du pouvoir américain entre 1958 et 1972. Un pouvoir américain qui atteint des sommets en termes de manipulation, d'assassinat et de scandale. Un roman noir total. Le très attendu troisième et dernier volet de la trilogie Underworld USA de James Ellroy est enfin arrivé. C'était en janvier dernier, 9 ans après American Distrip et 15 ans après American Tabloid. Deux romans qui, et par le sujet traité et par le souffle littéraire, ont installé Ellroy au panthéon de la littérature noire, ce qui lui vaut d'être régulièrement considéré comme un des plus grands écrivains américains d'aujourd'hui. Si l'attente crée l'événement, elle peut aussi occasionner frustration et déception. La sortie de Underworld USA, l'éditeur a donné à ce troisième roman le titre même de la trilogie, la sortie de Underworld USA a été un événement. Habile communicateur, Ellroy, plus provocateur que jamais, a défilé dans les médias qui ont multiplié portraits, interviews et articles les plus élogieux les uns que les autres. Reste un livre, un pavé, 850 pages bien tassées, un pavé qu'on se prend en pleine poire, étourdissant. Je l'ai lu cet été, il faut du temps, et pour moi, pas de doute, Underworld USA est à la hauteur de l'événement que sa sortie a suscité. Pour la petite histoire, j'ai aussi lu cet été L'homme qui rit de Victor Hugo. Dans la préface, à l'édition du livre de poche, oh, surprise, Myriam, un roman écrit, James Ellroy a fait du livre de Hugo le modèle avoué de son récit. Le Dahlia noir adapte L'homme qui rit en thriller en transposant l'histoire dans l'Amérique de l'après-guerre. Si L'homme qui rit est une méditation historique, écrit la préfacière, c'est aussi une œuvre foisonnante, une manière de drame qui réclame un lecteur pensif, puisque Hugo nous donne à réfléchir sur la misère et sur le peuple, sur l'amour et sur le désir, aussi bien que sur le mal. On pourrait reprendre ses propos tels quels pour Underworld USA, avec dans le rôle de l'homme qui rit,
le témoin, Don Crutchfield, jeune homme qui a toujours le nez au carreau et qui ne touche pas. C'est lui qu'Elroy fait parler au début de son roman. « Vous me lirez, je cite, vous me lirez avec une certaine réticence et vous finirez par capituler. Les pages qui suivent vous contraindront à succomber. Je vais tout vous raconter. » Et Elroy de tout nous raconter. Je vous rappelle qu'avec sa trilogie, Elroy s'attaque à l'histoire des États-Unis des années 60. Il faut dire qu'en un peu plus d'une décennie, un président y a été assassiné, puis un leader noir américain, un président a dû démissionner. En parallèle, il y a la guerre du Vietnam, Cuba qui défie l'impérialisme yankee et, comme personnage récurrent, Edgar J. Hoover, inamovible patron du FBI et intraitable père fouettard de tout ce qui touche au rouge et au noir. Bref, des années noires, plus noires qu'un roman noir puisse l'imaginer, avec le premier volume qui débute en 58 et s'arrête le 22 novembre 63, assassinat de Kennedy, et le second qui va de 63 au 6 juin 68, assassinat de Bob Kennedy. Underworld USA commence en 68 pour se terminer le 3 mai 1972 à la mort de Hoover. L'heure est venue de démythifier toute une époque, écrit Elroy à propos de sa trilogie. Objectif atteint, monsieur Elroy, et de quelle manière? Et il ajoute, James Elroy, est de bâtir un nouveau mythe depuis le ruisseau jusqu'aux étoiles. On ne peut que penser à la célèbre formule de Chandler. Ahmet a sorti le crime de son vase vénitien et l'a flanqué dans le ruisseau. Avec Elroy, il ne s'agit de rien de moins que le crime d'État. Underworld USA de James Elroy, Rivage Thriller, comment faire d'un cambriolage un roman noir total. Bonne lecture aux vénards qui ne l'ont pas encore lu, avec mes salutations les plus noirs c'est noir.
All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.
Mais Jean, bon, je sais que tu as reconnu, tu sais, d'ailleurs c'est toi qui as mis le disque, hein, que c'est Nina Simone, un classique, hein, Sinnerman, qui a été utilisé dans une bande, une BO, de, une bande originale musicale d'un film policier noir américain. Ça te dit quelque chose, non?
Non, non.
Donc c'est l'affaire Thomas Crown. Mais alors attention, il y a deux affaires Thomas Crown. Et malheureusement, ce n'est pas celui avec Steve
deux
McQueen.
Films.
Il y a deux films, hein, il y a eu deux versions, quoi, peut-être même plus. La plus connue est celle interprétée par Steve McQueen et Faye Dunaway. Mais Nina Simone a été utilisée pour l'autre, l'affaire Thomas Crown. Alors là, ne me demande pas de qui, avec qui. En tout cas, c'est aussi une sacrée musique, hein, pour ambiancer ce Noir c'est Noir. Bah, finalement, ça passe vite, hein. J'avais prévu encore plein de choses. On va devoir réduire énormément. Donc je vous rappelle que sur le site de Radio PFM et sur le site qui se met en place petit à petit, hein, Noir c'est Noir, www.noircetnoir.com, PFM on vous le redira, enfin, vous le connaissez, hein. Vous aurez un document spécial 500e avec le top 5 qu'on vient d'évoquer, la liste de toutes les chroniques, la liste aussi, enfin une bibliothèque Noir c'est Noir, une bibliothèque Noir c'est Noir idéale, et aussi donc le top 50. Alors pourquoi j'ai fait un top 50, Jean, d'après toi?
C'est une méthode de travail. T'as,
voilà.
T'as commencé par écrémer.
Ouais.
T'as fait un premier passage au tamis. Mm-hmm. 50, et puis après.
Il y a de ça, mais bon, je ne suis pas tombé sur 50.
C'est une décimation.
Voilà.
1 par 10.
Mais c'est aussi tout simplement ma manière de fêter mes 50 ans, Jean. Voilà. Et donc, parce que avec la 500e de Noir c'est Noir, j'ai eu 50 ans. Je paye une bière quand même à celle ou celui qui trouve une erreur dans le top 50, parce qu'il y en a une. Qu'est-ce que je... Ah oui, alors j'en profite, deux citations quand
tu
même.
Tu veux dire une erreur de choix ?
Une erreur. Hein, c'est le jeu des erreurs, on ne donne pas d'indication. Donc ça, il faudra aller sur le site hein, dans quelques jours, sur le site de Radio PFM ou sur le site de Noir c'est Noir pour avoir cette liste. Il y a une erreur. Mais j'en profite, 50 ans, c'est l'occasion de deux citations rapides. La première, vue par Heredia, qui est détective privé à Santiago du Chili. Aujourd'hui, j'ai pensé sans raison que j'avais probablement vécu les deux tiers de ma vie. Il me reste donc le dernier tiers, à coup sûr le plus difficile, celui de la lassitude et des adieux. Je n'ai plus les certitudes d'autrefois, ni d'espoir en l'avenir. Il ne me reste plus que la répétition des gestes connus et les mauvaises blagues d'un corps fatigué. Les coups me font deux fois plus mal, les lendemains de cuite sont terribles et je ne parviens pas à retrouver mes sentiments d'hier. Son ami Cérone, cet Heredia, qui donc, vous l'avez compris, qui devient quinquagénaire, son ami Cérone, flic à la retraite et sage parmi les sages, tente de l'apaiser. Ne reste pas seul, Heredia, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Trouve-toi une gentille fille et fais-lui des enfants. Tu es encore jeune, tu as des années devant toi. C'est un extrait de La couleur de la peau chez Métellier de Ramón Díaz Heterovic qui figure, bien entendu, dans le top 50 Noir c'est Noir. Autre citation, toujours pour illustrer ce top 50, ces 50 ans, une citation lue et approuvée par Jack Taylor, détective privé à Galway en Irlande. 50 ans est un âge dangereux pour tous les hommes. L'homme de 50 ans a énormément de choses à dire, mais personne n'accepte de l'écouter. Ses craintes paraissent incroyables parce qu'elles semblent tout à fait récentes. Il pourrait les inventer. Son corps est sujet d'inquiétude, il commence à lui jouer des tours, ses dents le préviennent, son ventre l'admoneste, il se dégarnit enfin une indigestion de crise cardiaque. Il ressent une lassitude cachée, il désire être jeune et sait qu'il devrait être vieux. Il n'est ni l'un ni l'autre et cela le terrifie. Paul Theroux, Jack le Magnifique, cité par Ken Brain dans Le Martyr des Magdalènes, série noire. Donc je te laisse méditer là-dessus, Jean. mais bon, toi, tu pourras aussi me donner quelques impressions sur cette période de la vie, hein, de 50 à 60. Alors, je vous ai donné là, justement un top 5. Ils n'y sont pas, mais n'étaient vraiment pas loin. Larry Brown, notamment avec son roman Faye. Même ville sous la pluie de Paco Ignacio Taibo Segundo. GB84 de David Peace, Shutter Island de Denis Lehane. Je vous rappelle qu'il y a un roman de Shutter Island que vous pouvez gagner en téléphonant, en envoyant un mail. Drive de James Salis et Le Martyr des Magdalènes de Ken Brain. Et là aussi, eh bien, la série noire s'associe à cette 500e et on vous propose trois romans en grand format, hein, série noire, nouvelle série noire de Ken Brain, La main droite du diable, une enquête de Jack Taylor, Chemin de croix, une enquête aussi de Jack Taylor, et Cauchemar américain. Alors encore une fois, vous envoyez un mail, vous téléphonez et vous pourrez obtenir un bouquin. Alors, top 5, top 50, Bibliothèque Noire, c'est Noir. J'avais prévu hein, de vous donner des interviews d'auteurs qui nous sont chers dans Noir, c'est Noir, mais aussi dans Tumulte, DJ Deninx, Tardy, qu'on a interviewé, Fajardi. Mais on s'arrêtera à un petit extrait d'une interview que nous avait donné Thierry Jonquet. C'est aussi une manière de saluer sa mémoire.
Alors bon, dans ce roman, donc vous parlez de noir, hein, de ce que vous allez devenir, écrivain de roman noir, et vous donnez une définition en fin de compte du roman noir. Vous dites des intrigues où la haine, le désespoir se taillent la part du lion et n'en finissent plus de broyer de pauvres personnages auxquels je n'accorde aucune chance de salut, dites-vous.
Bah oui, c'est un petit peu quand on regarde les romans noirs que j'ai écrits, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une ambiance très dure et où les personnages sont broyés, quoi. On pourrait croire que je m'acharne sur eux, quoi. Ce qui n'est pas le cas, mais on pourrait le croire.
Alors on a déjà du mal parfois en tant que lecteur à se demander pourquoi on lit du roman noir, justement par rapport à ça. Alors pourquoi on écrit du roman noir ?
Oh, mais je ne sais pas. C'est parce que moi je suis. j'ouvre mon journal tous les matins et je suis. Les bras m'en tombent quand je lis certains faits divers ou l'actualité scientifique, etc. Et il n'y a que du roman noir. Bon. hier dans Libé, j'ai lu une espèce de petite brève scientifique. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris, mais on peut traiter la stérilité masculine avec des rats. C'est-à-dire qu'on injecte ces quelques produits issus du sperme humain à des rats qui eux-mêmes fabriquent du sperme avec des spermatozoïdes compatibles avec les humains. On peut se référer à Dibé. Là, on touche le fond. Quoi. Je pense qu'effectivement, il y a des équipes scientifiques qui doivent travailler à ce genre de projet et qui dit que bon, on va refabriquer ou remêler les
Thierry Jonquet, oui, Jean, on est obligé malheureusement d'interrompre cette interview là aussi intéressante, surtout que Thierry Jonquet est quelqu'un qui parle peu, et donc quand il parle, c'est toujours bien pensé. Je signale quand même que le bouquin dont on parlait, c'est Rouge, c'est la vie, de Thierry Jonquet, donc un roman un peu autobiographique qui est paru chez Seuil. Donc Thierry Jonquet, on vous le conseille. Voilà, cette 500e se termine. Il y a beaucoup de documents qu'on n'a pas pu diffuser. Je vous rappelle que sur le site de Radio PFM, www.radiopfm.com, donc ça c'est le site, hein. Très prochainement. Bon, déjà, vous pourrez réécouter cette émission, mais je mettrai les documents concernant cette spéciale 500e de Noir c'est Noir, tout comme vous les trouverez sur un site, hein, donc un site carrément Noir c'est Noir, donc www.noircetnoir.com. Je voulais aussi, j'ai encore deux bouquins, Jean, hein, deux bouquins à offrir aux auditeurs. Le Credo de la violence aux éditions du Masque, de Boston Terran, c'est l'auteur assez, on va dire un auteur que personne ne connaît. C'est une énigme au niveau du roman noir américain. On ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais vu, on sait pas, hein, c'est sans doute un pseudo, mais on ne sait pas qui c'est. Il est connu pour le roman Satan dans le désert, et là c'est le dernier roman qui vient de sortir, au Masque. C'est vraiment très bien, ça fait penser à Il était une fois la révolution de Sergio Leone, c'est à la même époque, révolution mexicaine, etc. Et puis un bouquin aussi d'un auteur français, Colin Thibert, Le Festin d'Alice. Ça c'est un roman Fire Noir, un éditeur qui soutient aussi Noir c'est Noir. Voilà, je pense avoir tout dit. Il me semble oublier des choses, mais bon.
On va rappeler le numéro de téléphone de la radio, voilà. 03 21 50 99 99. Et l'adresse pour les mails si vous voulez recevoir ces livres, pfm@radiopfm.com.
Encore merci, Jean.
Bon anniversaire, Guy.
De rien.
Double. C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 23h30 et sur le net radiopfm.com. Salut, à la semaine prochaine.